mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour aux auditeurs, bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis, que nous proposes-tu cette semaine ?
Nous pouvons nous intéresser à l'idée clé d'un sociologue américain, Stephen Karpman.
Quelle est cette idée clé ?
Il s'agit d'une grille de description des relations humaines, grille baptisée « triangle de Karpman ». Ce schéma décrit des relations dégradées, des relations toxiques ou dysfonctionnelles, pour employer des mots au goût du jour.
Est-ce à dire que nous allons oublier, Girard, le temps de cette émission ?
Pas du tout. Après avoir commenté le triangle de Karpman, je vais tâcher de montrer qu'il s'agit en réalité d'un cas de figure du triangle mimétique de René Girard.
Triangle mimétique, triangle de Karpman, tu veux nous faire faire de la géométrie ?
En quelque sorte. Mais plaisanterie à part, peu importe les triangles, il s'agit de comprendre les mécanismes des relations humaines. Et Karpman, comme Girard, propose des outils, non seulement pour comprendre, mais aussi pour améliorer ou même guérir ses relations.
Karpman connaissait-il les travaux de Girard ? Et réciproquement, Girard connaissait-il ceux de Karpman ?
Je crois que non. Ils ont travaillé sans connaître leurs travaux réciproques. Or justement, comme ils convergent, cette méconnaissance mutuelle donne encore plus de crédit à leurs conclusions.
Et quel est l'intérêt de montrer que l'un, Karpman, si je comprends bien, est un cas particulier de l'autre ?
Le schéma de Karpman est purement empirique. Il est issu d'observations de cas cliniques réels, mais il ne s'adosse pas à une conception d'ensemble. Par contre, l'anthropologie de René Girard est bien une vision d'ensemble de l'être humain. Si le triangle de Karpman peut s'y rapporter, comme je le crois, alors ce schéma de Karpman trouve une assise théorique solide. Réciproquement, le schéma de Karpman est très utilisé par un certain nombre de psychologues, dont les résultats sont alors des arguments très concrets en faveur de la vision de René Girard.
Jean-Louis, explique-nous d'abord en quoi consiste ce triangle de Karpman.
Il porte plusieurs noms. Triangle dramatique, comme je l'ai déjà dit, mais aussi triangle bourreau-victime-sauveur. Le père Pascal Hyde, prêtre, médecin, psychothérapeute et philosophe, lui a même donné le nom de triangle maléfique. Mais la dénomination bourreau-victime-sauveur est la plus explicite. Stephen Karpman a remarqué que beaucoup de mauvaises relations mettaient en jeu des comportements puisés dans le trio bourreau-sauveur-victime. L'attitude du bourreau consiste à exercer une violence verbale sur son interlocuteur, à le menacer, le mettre mal à l'aise, l'effrayer, lui dire des paroles de mépris, le rabaisser, l'accabler, etc. Le bourreau cherche à dominer son interlocuteur en lui faisant peur. L'attitude de la victime consiste à se plaindre, à récriminer, à rejeter toute aide et toute proposition de solution, à accuser les autres de ses malheurs, à les accabler de son pessimisme, etc. La victime cherche à dominer son interlocuteur en faisant naître en lui la culpabilité. Enfin, l'attitude du sauveur consiste à apporter son aide sans qu'elle ne lui soit demandée ou sans que son interlocuteur en ait vraiment besoin, en imposant ses solutions, en étant intrusif, en exigeant de la reconnaissance, etc. Le sauveur veut prendre l'ascendant sur son interlocuteur en s'appuyant sur le sentiment de gratitude que son aide engendre chez lui.
Mais de nombreuses personnes sont réellement victimes et d'autres cherchent réellement à rendre service et à apporter leur aide.
Bien sûr, avec les termes de victime et de sauveur, le schéma de Karpman ne désigne pas les victimes véritables et les vrais sauveurs. Simplement, ces observations l'ont conduit à constater que certaines personnes cherchent à dominer les autres en jouant à la victime ou en jouant au sauveur. Et ce sont ces personnes qu'ils visent, des personnes qui ne se satisfont pas de relations équilibrées et recherchent une emprise sur leurs interlocuteurs. Et cette recherche d'emprise rend précisément la relation toxique.
Tu disais que certains jouent à la victime ou au sauveur. S'agit-il de tactiques conscientes ?
Il peut arriver que certaines personnes emploient consciemment ce genre de procédé, mais la plupart du temps, ils en sont inconscients. Ils croient au rôle qu'ils jouent, même les bourreaux. Ces jeux sont pervers en ce qu'ils consistent à causer du tort à l'autre, à lui nuire, à le blesser. Et peu de gens acceptent de commettre le mal volontairement et en toute connaissance de cause. Seuls les psychopathes l'acceptent et le recherchent.
Mais alors, pourquoi les gens « normaux » entre guillemets, Cherche-t-il à causer du tort aux autres dans leurs relations ?
Karpman ne répond pas à cette question. Avec son triangle, il décrit comment se développent les relations toxiques entre certaines personnes, mais il ne dit pas pourquoi. Nous allons trouver la réponse grâce à la théorie mimétique de René Girard.
Avant que tu n'en viennes à la théorie mimétique de René Girard, j'aimerais encore te poser une question. Souvent, les relations s'établissent entre deux personnes. Or, Karpman parle de triangle. Faut-il absolument un troisième larron pour que se développent des relations toxiques ?
Pas du tout. Le nombre d'interlocuteurs est indifférent. Et tu as raison de souligner que le cas le plus fréquent est celui de relations entre deux personnes. Chacun des interlocuteurs, dans la plupart des relations dégradées, choisit, inconsciemment en général, entre trois comportements, bourreau, victime ou sauveur. C'est pourquoi Karpman parle de triangle. Encore une fois, ces trois comportements possibles sont le résultat de ses observations. Il a également observé que les interlocuteurs peuvent même changer de rôle au cours d'une même discussion. Une victime qui prend l'ascendant se révèle tout à coup un bourreau. Un sauveur plein d'empathie devient progressivement un tyran qui s'impose à celui qui l'a aidé, etc. Ces dénominations de bourreau, victime et sauveur peuvent laisser penser qu'elles caractérisent les personnes. Ce n'est pas le cas. Certains peuvent préférer jouer tel ou tel rôle, mais Karpman insiste sur la circularité entre ces différents comportements et a écrit dans son livre « Le triangle dramatique », je cite, « Nous jouons les trois rôles en même temps dans toutes les situations du triangle ».
Venons-en maintenant à René Girard. Et en quoi son anthropologie inclut le triangle de Karpman ? C'était bien ta promesse, n'est-ce pas ?
En effet, commençons par nous remémorer ce qu'est le triangle mimétique. Nous y trouvons d'abord un sujet, quelqu'un qui ne sait pas quoi ou qui désirer. Cette incapacité à orienter son désir est l'hypothèse fondamentale de la théorie girardienne. Ce sujet croise une personne qui lui désigne un objet désirable, qui répond ainsi à la question qui taraude le sujet « que désirer ?». Cette personne, qui désigne un objet désirable et déclenche ainsi le désir du sujet, c'est celle que René Girard appelle le médiateur. Le sujet, le médiateur, voici les deux premiers sommets du triangle mimétique. Le troisième sommet, c'est tout simplement l'objet que le médiateur a désigné comme désirable au sujet.
Nous avons un vrai triangle avec des rôles bien distincts. Comment en arrive-t-on au triangle de Karpman qui se joue le plus souvent à deux et dont il disait lui-même que chaque interlocuteur joue simultanément le sauveur, la victime et le bourreau ?
Le triangle mimétique devient un triangle de Karpman lorsque s'établit une rivalité mimétique entre le sujet et le médiateur. Et c'est un cas de figure assez fréquent et que Girard a commenté abondamment. Le sujet ne savait quoi désirer et le médiateur lui indique un objet désirable. Il est donc le sauveur du sujet, puisqu'il apporte une réponse à l'une de ses interrogations profondes. Or, c'est souvent en voyant le médiateur désirer un objet que s'éveille le désir du sujet. Il se dit inconsciemment « Si cette personne désire cet objet, c'est donc que cet objet est désirable. Et puisqu'il est désirable, je le désire à mon tour. » Ainsi naît la rivalité mimétique. Celle-ci fait que le médiateur devient un obstacle au désir du sujet. Le médiateur est donc ainsi une sorte de bourreau du sujet en ce qu'il le concurrence dans la quête de l'objet. Mais le médiateur devient lui aussi une victime du sujet, puisque celui-ci est son rival. Il cherche à s'emparer de l'objet que lui, le médiateur, désire. Une rivalité est une relation symétrique. Chacun est à la fois le bourreau et la victime de l'autre.
Et le rôle du sauveur ?
Nous avons vu que le médiateur est un sauveur du sujet en ce qu'il lui indique quoi désirer, apportant ainsi une réponse à une question existentielle du sujet, que désirer. Le sujet se met alors à désirer le même objet que le médiateur. De cette façon, il confirme aux yeux du médiateur que l'objet est bien désirable, il le renforce dans son désir. Et sous cet angle-là, il est aussi un sauveur du médiateur. On n'est jamais aussi sûr de son désir que lorsqu'on voit quelqu'un d'autre avoir le même.
Ne peux-tu pas illustrer ceci par un petit exemple ?
Prenons celui de deux enfants devant un paquet de jouets. On leur demande d'en choisir un. Ils ne savent lequel prendre. Tout à coup, l'un des enfants s'empare d'un jouet, soit par hasard, soit par une discrète intervention d'un adulte. Immanquablement, l'autre enfant réclame alors ce même jouet. Il ne le désire que parce qu'il a vu l'autre enfant le vouloir. Ils se mettent alors à se disputer le jouet. Ils sont l'un pour l'autre un sauveur, car ils se sont mutuellement convaincus que ce jouet-là est bien le plus désirable, ce qui apporte la solution au problème de l'incertitude de leur désir. Ils sont l'un pour l'autre une victime, car chacun est privé par l'autre de l'usage de son jouet, et ils sont l'un pour l'autre un bourreau, puisque chacun empêche l'autre de profiter du jouet. Deux individus en conflit, chacun cherchant à l'emporter sur l'autre, simultanément sauveur, victime et bourreau l'un de l'autre, c'est très précisément le triangle de Karpman. Ce triangle est donc bien un cas particulier du triangle mimétique, le cas spécifique où le sujet et son médiateur entrent en rivalité l'un avec l'autre pour un même objet.
Tu viens de nous parler de l'assimilation du triangle de Karpman à une configuration particulière du triangle de Gérard. Quelles en sont les conséquences ?
La conséquence la plus importante est qu'elle permet de comprendre pourquoi se déclenchent des relations toxiques à la Karpman, pourquoi les gens cherchent ainsi à se nuire mutuellement, à prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Cette réponse tient à l'incertitude existentielle propre à la condition humaine. Qui suis-je ? Que dois-je faire ? Que puis-je désirer ? Les relations dysfonctionnelles apparaissent parce que l'un des protagonistes s'imagine que l'autre a la réponse à ses questions. Il veut alors s'emparer de ses réponses. Il veut ressembler à son modèle, il veut être lui, ce qui le conduit à affirmer sa supériorité, à abaisser l'autre, voire le détruire. C'est très exactement une rivalité mimétique dans laquelle chacun de nous est sauveur, bourreau et victime de l'autre. Stephen Karpman a décrit par son triangle comment se jouent la plupart des relations toxiques. L'intégration de son schéma dans l'anthropologie de René Girard permet de franchir un cap supplémentaire et d'expliquer le pourquoi de ces relations toxiques et de préciser où elles trouvent leur source. Cette source, c'est l'incertitude existentielle de la condition humaine qui fait que nous ne savons pas quoi désirer de façon autonome.
Peux-tu nous donner quelques références en guise de conclusion ?
Le triangle de Karpman a donné lieu à une littérature abondante et les sites internet qui lui sont consacrés pullulent littéralement. De Stephen Karpman lui-même, la référence est son livre intitulé « Le triangle dramatique ». Mais c'est Pascalide, le plus clair et le plus profond de ses commentateurs, avec un ouvrage publié en 2019, « Le triangle maléfique » ou « Comment sortir de nos relations toxiques ». Je me permets de signaler également des articles que j'ai rédigés sur le sujet pour le blog L'Émissaire dédié à René Girard. Article sous le titre « Les trois masques du persécuteur ».
Merci aux auditeurs de leur fidélité. Merci Jean-Louis. Au revoir à tous.
Au revoir Catherine.